Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, on va ouvrir notre Bible. Peut-être que vous allez pouvoir suivre les versets, c'est possible ? D'accord. Je ne vais même pas avoir à prêcher, vous allez lire. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Bien, alors nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu, la Bible, je vous invite à cela, et je vous propose deux courtes lectures, Ésaïe chapitre 53. Alors assurément, ce sont des textes que vous connaissez, et apporter un message sur des choses que vous connaissez, que nous connaissons tous, et on va les transposer sur le plan spirituel, si vous voulez. Et vous allez voir qu'il y a dans la parole de Dieu des richesses insoupçonnées, et que finalement le spirituel n'est pas loin du naturel, et que le naturel, eh bien, nous inspire aussi et nous donne de comprendre le spirituel. Écoutez bien. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, voilà ce que je lis. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Deuxième lecture, si vous le voulez bien, nous allons nous reporter maintenant dans 1 Pierre, Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Voilà pour la situation de notre réflexion. En introduction, j'aimerais tout simplement rappeler ceci. C'est que la Bible nous parle de vaincre des géants. Et nous avons naturellement ce récit épique de David et de Goliath, où la minuscule petite nation d'Israël a vaincu de redoutables ennemis, des coalitions d'adversaires, et ça c'est la guerre des hommes. On la connaît, elle est partout, autour de nous. La Bible rapporte une autre situation de combat et de lutte. C'est les forces invisibles. En cela, vous pouvez toujours vous reporter dans Éphésiens chapitre 6, et il nous en est parlé. Et ces forces invisibles sont infiniment puissantes, nous dit la Bible, et beaucoup plus puissantes que nous pouvons l'imaginer. C'est la guerre spirituelle. C'est aussi une guerre des géants, mais dans un autre monde. Et puis, il existe, et c'est sur cela que j'aimerais que nous portions notre attention ce matin, il existe aussi une autre lutte qui menace la vie à chaque instant, qui a été ignorée pendant des siècles et pour cause, dont on ne peut pourtant sous-estimer la puissance de destruction. C'est un autre fléau qui est révélé non pas par la Bible, mais la Bible va nous en parler ce matin, parce que je vais mettre en confrontation. Un autre fléau révélé par la science, ce sont les virus. C'est la guerre bactériologique. C'est de l'imperceptible et du microscopique. Mais véritablement, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le péché, alors il va falloir regarder au moins dans ces trois dimensions. La guerre des hommes, la guerre spirituelle et la guerre de l'infiniment petit, dans l'invisible, dans l'imperceptible, mais qui néanmoins est quelque chose de redoutable. Alors on va aller maintenant à la découverte de tout cela. J'aimerais que vous gardiez votre Bible ouverte. Nous allons avoir un autre texte à lire qui nous livre une nouvelle piste de réflexion. C'est toujours dans Pierre. Alors on va rouvrir ce passage. 1 Pierre, et nous allons lire au chapitre 4 cette parole qui va nous éclairer et qui va finalement nous guider dans notre pensée ce matin. Alors, 1er épître de Pierre, chapitre 4, et je lis ceci au verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Et ce que je veux développer, c'est ce qui vient. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, dans cette vie, dans notre humanité. Il s'agit d'un virus invisible, redoutable en puissance de destruction, et l'Écriture sainte nous dit simplement, mais d'une manière définitive, que c'est mortel. Je dis bien mortel, et cela porte un nom, c'est le péché. Si je reprends tout simplement une fraction de ce texte, il est dit « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché ». J'en viens à ma comparaison maintenant. En immunologie, excusez-moi, le principe est similaire. On l'appelle, écoutez bien parce qu'on y est tous passés, on l'appelle vaccination. Et il y a un processus que j'aimerais mettre devant vous pour que vous compreniez que finalement, eh bien là, il y a une correspondance, il y a une similitude qu'il y a entre ce que les hommes de science et les médecins ont découvert et la victoire sur le péché. Vous allez dire, mais où il va chercher tout ça? Eh bien, on va le voir. Parce que finalement, tout ce que les hommes trouvent aujourd'hui a toujours existé, de tous les temps, et a rien de nouveau sous le soleil. Et vous vous souvenez probablement, lorsque nous étions enfants, ce qui ne nous faisait vraiment pas plaisir, quand on passait à l'époque en mairie, parce que ça se faisait comme ça, où on allait à la piqûre. 1, 2, 3. Et avec ces cutis réactions. Et après, on repassait devant le médecin pour voir ce que ça avait donné. Pour voir s'il y avait des... Bon, on va en parler tout à l'heure. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Mais c'est exactement le même principe que ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Alors on va conserver à l'esprit cette parole de Pierre. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché pour vivre, non pas pour mourir. Parce que le but c'est de vivre. Et de vivre pleinement en Dieu, de vivre libéré, de vivre affranchi du péché, de vivre à la gloire de Dieu, mais en ayant, finalement, évacué le péché. Ce n'est pas nous qui l'avons évacué. Alors, on va revenir sur le phénomène de la vaccination. La vaccination permet, je le rappelle, d'inoculer une maladie potentielle dans l'organisme de quelqu'un. On est d'accord. Celui-ci, l'organisme, confronté à un ennemi affaibli, parce qu'on va mettre des faibles doses de la maladie, que ce soit le tétanos, que ce soit la variole, on en reparlera tout à l'heure, parce que toute l'histoire tourne autour de cette découverte, et de n'importe quelle maladie infectieuse, alors à ce moment-là, l'organisme confronté à un ennemi qui est affaibli va, pour un temps relativement long, parce que les vaccinations, eh bien, ça peut durer des années et des années, finalement être mémorisé par l'agresseur dont nous, c'est notre corps l'agresseur, parce qu'on lui donne la maladie en quelque sorte, va se constituer ce que l'on appelle des défenses spécifiques, et en cas d'attaque ultérieure, quelquefois 10 ans après, parce que vous avez été vacciné, et des attaques sérieuses, sera à ce moment-là tout à fait en mesure de le vaincre, puisque vous avez été vacciné, puisque vous avez reçu la maladie, et que le corps a produit des anticorps et vous allez pouvoir vous défendre. C'est bien la grande différence qu'il y a entre ce que nous étions quand nous n'étions pas convertis et ensuite la conversion. Il y a eu quand même une différence. Nous avons pris Christ avec nous. Nous avons reçu Christ en nous. Et il y aura à ce moment-là la production et la réserve d'anticorps. Écoutez, dans Romains, je cite simplement dans Romains chapitre 11, verset 32, il est dit ceci à un moment donné, voilà, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Enfin, on s'est renfermé soi-même. On s'est renfermé dans le péché, dans la désobéissance. Et pourquoi ? Pour faire miséricorde à tous. C'est pas pour que nous mourions, mais c'est pour que nous vivions. Pour que nous puissions avoir des réactions contre le péché. Et un sujet, homme, femme, enfant, qui n'a pas de défense, ben qu'est-ce qu'il va faire ? La maladie va pouvoir finalement avoir raison de lui. C'est ça la question. Tout est là. Avant le principe de la vaccination, des millions de gens sont morts durant des siècles d'impuissance due à l'ignorance. Parce qu'on ne savait pas. Parce qu'on n'avait pas trouvé, finalement, eh bien, là, des réponses. Et on était dans l'ignorance. Parce que certaines maladies qui pouvaient être bénignes étaient inconnues de l'organisme de certaines populations. Parce que finalement, eh bien, on ne savait pas s'en défendre, on ne savait pas comment faire. Et il y a eu des gens qui sont morts, mais par millions. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions devant certaines maladies redoutables, telles que le virus Ebola, ou on parlera du sida, ou on parlera d'autre chose. Mais la lutte continue, elle continue toujours. Jusqu'au jour où, peut-être, là, avec la grâce de Dieu, on trouvera des solutions. Mais il y a des maladies qui étaient redoutables hier. On parle de la peste, on parle du choléra, on parle de tout ça, mais aujourd'hui, il y a des réponses. Pourquoi ? Parce que, voilà. Alors, on va donner une application spirituelle à tout ça, si vous le voulez bien. L'application spirituelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie. Et vous connaissez naturellement le processus et le principe. Dieu a mis dans notre... En nous, il a mis cette conscience morale. Nous avons été confrontés avec la parole de Dieu. Et c'est encore Dieu qui nous a rendus capables de l'écouter, de l'entendre et de la croire et d'y demeurer dans cette parole. Dieu nous a donné également le Saint-Esprit à travers la nouvelle naissance, à travers le baptême du Saint-Esprit, parce que nous y croyons. Et le Saint-Esprit, et tout cela nous révèle et nous a appris, figurez-vous, à identifier chaque péché spécifiquement. On sait depuis ce que c'est que le vol, on sait ce que c'est que la haine, on sait ce que c'est que le ressentiment. Dans le temps, on le savait aussi, mais on se disait finalement, c'est la nature. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est certainement la nature. Mais attention, c'est une nature qui tue. C'est une nature qui détruit. C'est une nature qui nous emmène à la perdition. Mais maintenant, on le sait, parce que la parole de Dieu nous le dit, parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous le dit également, et parce que Dieu a éveillé une conscience morale. Donc, il y a là, naturellement, des choses qui ont été révélées, identifiées, et nous le savons. D'ailleurs, on le sait fort bien, parce que quand on fait le mal, on le sent tout de suite à l'intérieur de nous-mêmes. Et toutes ces choses que Dieu a mises à notre disposition nous ont fait connaître la nature de ce péché, avec ses incidences et ses conséquences désastreuses, et enfin son aboutissement inéluctable, puisque la parole de Dieu est claire, elle nous dit que le salaire du péché, c'est quoi ? C'est la mort. Donc voilà, on pourrait dire que la contamination d'une maladie gravissime, c'est la mort. Le salaire du péché, donc c'est la mort. Et pour autant que nous soyons avertis, et un âme averti, vous savez ce que ça veut dire ? En principe, il en vaut deux. Donc, pour que nous soyons avertis, à ce moment-là, Dieu va permettre que nous soyons renforcés par certaines expériences humiliantes, précisément dans le péché. Ah oui, parce que je voudrais quand même vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes convertis que nous ne péchons plus. Nous ne pratiquons plus le péché, c'est différent, comme nous le pratiquions auparavant, en nous délectant, ou soit par ignorance, mais aujourd'hui c'est autre chose. Alors, le phénomène est le suivant, c'est que Dieu permet quelquefois des expériences humiliantes où nous nous engageons dans des choses dans lesquelles nous ne devrions pas nous engager. Et nous pourrions dire qu'à ce moment-là, tout en ayant la connaissance, nous avons une mise en contact avec le virus. Le virus, c'est le mal, c'est le péché. Alors, quelquefois, il nous plaît, le péché. Quelquefois, on le regarde dans le blanc des yeux et on se dit « Oh, c'est pas si grave que ça. C'est pas grave du tout. » Et puis, quand il commence à faire ses effets de virulence à l'intérieur de nous-mêmes, on se dit « Tiens, ah, j'ai peut-être été trop loin, j'ai peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas. » Et à un moment donné, quand les barrières, on pourrait dire immunitaires, sont passées, alors à ce moment-là, on s'aperçoit que véritablement, nous sommes en danger de mort. Que finalement, malgré les apparences, il n'y a plus rien de chrétien en nous. Il n'y a plus l'esprit. Dieu est parti. Et qu'on peut avoir une phraseologie, on peut avoir une apparence, mais il n'y a rien du tout, parce que le mal est là. Il a dominé, il a pris la place. Alors, nous avons été mis parfois en contact avec le virus. Et les virus du péché, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est les impuretés, c'est la colère, c'est la haine, c'est le ressentiment, c'est la mauvaise langue, c'est toutes sortes de choses. C'est tout simplement Galates, chapitre 4, me semble-t-il, chapitre 5, verset 19. Ça, vous pourrez toujours le constater, le revoir. Alors, nous le savons tout cela, et si nous avons la bonne réaction, et si nous avons véritablement pris ce qui était nécessaire de prendre auparavant, alors nous allons nous en défendre, nous le repousserons et nous pourrons d'autant mieux le vaincre que nous le connaissons. Et c'est le problème qui, quelquefois, chez les enfants de Dieu, qui ne reconnaissent pas leur péché. Tout est là pour leur dire, tout est là pour leur montrer. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, les prophéties, le Saint-Esprit, et puis peut-être quelquefois les frères et les sœurs qui sont là, et ils ne veulent pas le reconnaître. Ils font ce qu'on appelle de la dénégation. Non, c'est vous qui avez tort, c'est moi qui ai raison, parce que c'est comme ça. Alors, ça, c'est plus une affaire humaine, hein, à ce moment-là. C'est une affaire qui dépasse, finalement, eh bien, la dimension de ce que nous sommes, mais il y a un ennemi qui a pris position dans cette affaire. Et on peut dire que quand on connaît le péché et quand on le reconnaît, alors à ce moment-là, il y a forcément possibilité de s'en sortir, possibilité de guérison, possibilité de revenir. C'est l'histoire du fils prodigue, en quelque sorte. On pourra citer toutes sortes d'exemples. Parce que les morsures et les blessures du mal, eh bien, nous ont, en quelque sorte, rendus allergiques. Parce que ça nous a fait du mal, on n'a pas envie d'y retourner. Parce qu'en faisant du mal, on s'est fait du mal à soi-même. Ce que je voudrais dire, mes frères et sœurs, et ça vous en êtes convaincus, c'est que quand on fait le mal, on ne fait pas tant de mal à l'autre qu'on se fait du mal à soi. Et ça, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit dans notre entendement quelque chose qui soit en permanence. On ne peut pas bricoler, on ne peut pas toucher, on ne peut pas manipuler le mal sous une forme ou sous une autre sans se dire, finalement, je me fais du mal à moi-même. C'est un principe spirituel. Alors, finalement, le mal, le péché qui nous fait du mal, parce que c'est comme ça, eh bien, va nous rendre allergiques. Nous allons être vaccinés, quand on dit à quelqu'un, il est vacciné, lui, hein, contre ceci ou contre cela. Ben oui, parce que il nous est dit que comment on dit là pour le chat, là, quand un chat est bouillanté, craint l'eau froide. Ouais, ouais, d'accord. Un petit sourire au passage, mais enfin bon, il y a quand même une vérité dans tout ça. Vous savez, les proverbes même humains, hein, ils ont des vérités derrière. Hein. Ouais. Alors, on s'aperçoit que le contact avec le péché nous a parfois rendus malades. Et quelquefois, Dieu permet que nous soyons malades, et que nous soyons bien malades à cause du péché. Parce que quand on a été malade, eh ben, on n'a pas envie de retomber malade. Et ça, c'est une façon de faire de Dieu pour nous dire, mais arrêtez, vous êtes sur une mauvaise voie, vous êtes en train de passer dans le mur, là. Et vous allez voir que quand on se frappe sur un mur, on va voir des bosses. Et Dieu, quelquefois, nous traite comme des petits-enfants. Eh oui, parce qu'il ne peut pas faire autrement, puisqu'on n'écoute pas, parce qu'on ne veut pas écouter. Alors, on comprend que le contact avec le péché nous a rendus quelquefois malades, et je dirais malades préventivement. Quand on a eu une vaccination, quelquefois, on a un peu de fièvre. Vous comprenez? Parce qu'on a inoculé les principes de la maladie. Alors, quelquefois, on est un petit peu tout chose, on ne sait pas. Bon, ça ne dure pas, et les médecins savent très bien doser, hein, y a pas de problème. Mais la maladie a fait son effet, en quelque sorte. Et là, il va y avoir une réaction du corps pour se défendre. Et Dieu nous rend malades préventivement, spirituellement. Mais à ce moment-là, nous avons développé des barrières de défense et sommes devenus réactifs. C'est pour ça qu'on appelle ça QT réactif ou QT réaction. Et avons finalement développé des anticorps capables de rejeter l'intrus, c'est-à-dire le péché. Nous avons tous connu des chrétiens qui sont partis quelquefois un petit peu à la dérive, dans des aventures douteuses, et qui, fort heureusement, sont revenus. Mais ils en ont vu de 36 façons. Ils ont été malades. Ils ont été malades physiquement, peut-être. Ils ont été malades moralement. Ils ont été malades affectivement. Ils ont été malades spirituellement. Et je peux vous dire que ça les a guéris. Ils n'ont pas eu envie d'y retourner. Et qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés avec peut-être leur histoire, leur ancienne histoire, ça leur donne des frissons et se disent « Non, non, moi je fuis, hein, je préfère encore me tenir de côté parce que je sais ce que ça m'a coûté. » Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alors n'allons pas nous faire d'illusions, comme je l'ai quelquefois entendu. « Ah, mais parce que je suis chrétien, il ne m'arrivera rien, tiens. » Oui, oui. Alors là, c'est vraiment de l'illusion sur soi-même, et c'est de l'illusion sur la réalité de la vie. Et Dieu permettra que quand on marche à côté de nos chaussures, eh bien, quelquefois, nous ayons quelques fièvres, nous en ressentions quelques effets. Mais Dieu ne le fait pas pour nous punir, il ne le fait pas pour nous juger, il nous fait pour nous protéger, pour dire, eh bien, tu n'y retournes pas. Moi, quand mon garçon était petit, on lui disait toujours de ne pas toucher le feu. Ah, mais ça, quand c'est interdit, il faut y aller. Et un beau jour, chez son grand-père, il y avait une source de feu, mais c'était très, très fort. Et, comme ça, sans qu'on le regarde, il a mis la main dessus. Ben, on s'est retrouvé chez le médecin en urgence et toutes sortes de choses comme ça. Ah, il s'en souvient aujourd'hui. Hein. On en parle, il a 30 ans. Hein. Je peux vous dire, ça brûle. Eh oui, mais le péché, ça brûle. Et si on ne veut pas le comprendre, eh bien, on va se brûler, et puis après, on le comprendra. Et Dieu nous a dit pourtant, mais n'y touche pas, parce que ça va te faire du mal. Et on y touche quand même. Eh oui, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. La doctrine que je nommerai pseudo-chrétienne, parce que ce n'est pas une doctrine chrétienne, elle est seulement pseudo, qui proclame l'aseptisation totale de la vie chrétienne ou de l'Église, permettez-moi de le dire ce matin, c'est une aberration, c'est une fausse doctrine, car elle va à l'encontre de ce que la nature et la création nous enseignent. Eh oui, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas à vivre dans une église bocale, mais dans une église locale ouverte. Il ne nous a pas appelés à vivre dans un pot de formol, mais Jésus nous a bien dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Si nous voulons nous préserver, parce que on en revient à ce que nous disions tout à l'heure. Alors, l'aseptisation totale, moi je ne trouve pas dans l'évangile. On pourra l'appeler légalisme forcené, ou sanctification charnelle, qui paraît spirituelle, mais qui n'est rien de spirituel, et puis d'autres choses. Il est vrai que la lutte contre le péché nous expose et nous fragilise. Eh oui, comme un vaccin inoculé dans le corps d'un enfant, va le fragiliser pendant quelque temps, mais pour le rendre plus fort après, et va nous exposer. C'est une mise en évidence de nos faiblesses. Et c'est là où on se dit, on n'est pas si fort que ça. Quelquefois, nous en ressortons avec des anémies spirituelles, morales, ou avec des fièvres spirituelles, des fatigues, toutes sortes de troubles. Alors, on se dit, mais Seigneur, mais je t'appartiens, pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela? Et Dieu ne nous répond jamais sur le moment, il nous répond sur la longueur du temps dans notre vie. Et après, on comprend que finalement, certaines choses ont été nécessaires par l'expérience. Je dis bien par l'expérience. Et on s'en souvient quelquefois de certaines fièvres. Quand nous avons été emportés par un souffle quelquefois diabolique, qui nous amène à avoir du ressentiment contre quelqu'un, qui nous amène à avoir de la haine contre quelqu'un. Ça, c'est arrivé à tous. Et on se dit, Seigneur, c'est pas possible que je sois chrétien et que je puisse porter cela dans mon cœur. Alors on pleure et on dit, Seigneur, délivre-moi de cette fièvre, délivre-moi de ce mal, parce que je ne veux pas être comme ça. Toutefois, le résultat final dépendra de notre arsenal ou de notre stock de défense. On en aura fait ou on n'en aura pas fait. Et c'est bien ce que, d'une manière très évidente, me semble-t-il, moi j'aime bien parce que les choses ne sont pas été écrites comme ça, elles ont été écrites pour notre instruction. Et j'aime bien ce que Paul dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 6 et verset 13, il dit ceci, et ça nous parle de notre arsenal et notre stock de défense. Est-ce que vous avez un stock de défense pour vous lutter contre le péché, contre le mal? La question, elle est là. Écoutez bien, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, il faut s'armer de défense, pas pour attaquer, mais pour se défendre, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Mes frères et sœurs, il y a des chrétiens qui n'ont aucune défense contre le mal. Ils sont très affaiblis. Et c'est paradoxal, mais c'est souvent ceux qui se croient les plus forts. Ah, ça c'est un mystère. C'est un mystère d'aveuglement qui vient par les puissances mauvaises. Il est un mal invaincu à ce jour qui défraie la chronique. C'est un mot que vous entendez, dont on n'a pas fini de parler, c'est le sida. On est en train d'en parler en ce moment. C'est les journées du sida. Bon, ça véhicule toutes sortes de choses, naturellement, mais c'est terrible. Par toutes sortes de choses, c'est qu'ils ne peuvent même plus se défendre contre les maladies les plus bénignes. Il existe, hélas, la version spirituelle du sida, c'est l'effondrement de la résistance au péché. C'est la neutralisation de la volonté d'un chrétien. Il ne sait plus dire oui, il ne sait plus dire non, quand il faut dire oui, quand il faut dire non. Il est sans résistance. Tout passe. C'est la passivité du raisonnement. C'est-à-dire qu'il ne prend pas de décision, il ne sait pas prendre une décision, il ne peut plus prendre de décision. Il ne peut plus raisonner, il ne peut plus réagir positivement en disant « Non, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas ça parce que c'est pas bien, c'est pas bon. » C'est un entendement détourné, c'est-à-dire qu'il comprend de travers, il comprend à côté, il comprend finalement le contraire de ce qu'il faudrait comprendre spirituellement. C'est la conscience cautérisée, c'est-à-dire que finalement, devant le mal, il se dit « Oh, finalement, c'est pas grave, c'est rien du tout. » Donc c'est une conscience qui n'a plus la notion, eh bien, qui est cautérisée. C'est la confusion morale. Le bien, le mal n'a pas beaucoup d'importance. On appelle bien, on appelle mal, et c'est le grand mélange. C'est l'impuissance de l'esprit, parce que ce qui nous fait vivre, c'est la vie de l'esprit, mes frères et sœurs. Mais l'esprit a été tellement absorbé par toutes sortes de stimuli, toutes sortes d'appétits de bas niveau, que finalement, eh bien, tout cela, ça ne marche plus, vous comprenez? C'est le désintérêt, voire la répulsion de la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui se disent, bon, la parole de Dieu, ça sert à quoi? Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, peut-être avoir été chrétien. Ou alors, c'est la répulsion. Ne me parlez pas de la parole de Dieu. Ne me citez pas tel verset, parce que moi, ça m'horripile. Vous comprenez? On en arrive à cela et c'est terrible. On l'a déjà vu. Hein. Alors, la moindre infection qui se présente emporte la victime. C'est pour ça qu'il y a malheureusement au milieu de nous, hélas, des frères et des sœurs qui ne sont plus chrétiens, qui ne sont plus dans l'Église de Christ, parce qu'ils n'ont pas vu les choses. Ils n'ont pas vu. C'est pour ça que l'injonction qui est donnée par Paul dans Éphésiens chapitre 6, il dit ceci, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Si je compte sur moi, mes frères et mes sœurs, je suis perdu. Si je compte sur des ressources humaines, naturelles, terrestres, ce n'est pas possible. Mais la parole nous dit, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Si les savants ont trouvé la solution aux maladies de la terre, et nous bénissons Dieu, parce que moi je crois que des gens comme Pasteur, et puis comme bien d'autres, tous ces docteurs, tous ces savants, qui ont passé leur vie dans des laboratoires, et qui étaient exposés, il faut le dire, eh bien, s'ils ont trouvé certains principes pour lutter contre la maladie, tuberculose, choléra, enfin on a cité déjà des noms tout à l'heure, alors, ils ont trouvé des réponses. Moi je dis que c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rejeter la science et la médecine. Moi, je crois que Dieu a donné une intelligence. Et quand on en arrive à abdiquer notre intelligence, c'est que, vraiment, on n'a pas compris grand-chose. Ça ne veut pas dire que notre intelligence doit dominer. Non, mais je pense qu'il faut savoir aussi reconnaître la grâce et les faits de Dieu, même à travers ce qui se passe autour de nous. Alors, je dis bien que s'ils ont trouvé la solution, par le moyen de l'immunisation préventive, c'est ce qu'on appelle le vaccin, pour ce qui est du péché, Dieu a donné à l'homme l'issue qui le sauve et qui s'inspire approximativement du même principe. Et la solution, nous pouvons dire qu'elle repose, le salut, notre salut devant le péché, repose sur Jésus-Christ. On pourrait dire qu'il est souche pure, sainte. Donc, sur Jésus-Christ, sur son sang. Et on va en parler tout à l'heure, qui est véritablement le principe même de la guérison qu'il contient, et également la foi. C'est là où moi je m'approprie. Là, c'est là où je veux me faire soigner. C'est là où je dis je suis malade du péché, et Seigneur, toi qui es le divin médecin, tu me guéris. Mais il me guérira à travers Christ, il me guérira à travers le sang de Christ. Et on va voir ça. Un texte de la Bible restitue la comparaison. Vous le connaissez, il est très simple et très lapidaire. Il nous est dit que Christ a été fait péché pour nous. Vous connaissez ? Tout le monde le connaît. Christ a été fait péché pour nous. Quand du ciel, Dieu a considéré l'épidémie mortelle du péché, et c'est une épidémie qui est transmissible. C'est ça le problème. Hein ? Dans Romains chapitre 5, il est dit ceci à un moment donné, c'est que par un seul homme, le péché est venu dans le monde et que tout le monde a été contaminé par le péché. Et la gravité, c'est qu'il est transmissible, comme d'autres maladies. Alors Dieu a cherché, et il a trouvé la seule réponse possible, et loin de déployer sa toute-puissance pour finalement détruire le péché, parce qu'il est puissant, il a fait finalement le choix de sa propre souffrance. Il a été brisé pour nos péchés. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Dieu a fait le choix de souffrir, et de souffrir non pas pour lui-même, mais de souffrir pour les autres. Le pire des choix pour l'être parfait est saint qu'est Dieu, c'est-à-dire devenir péché pour nous. C'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, la vision que nous avons de la croix, quand Jésus a prononcé ces paroles à la face du monde d'hier et d'aujourd'hui, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a détourné le regard quelques instants parce qu'il ne pouvait supporter tout ce qu'il pouvait y avoir d'ignoble, de sale, de souillé, d'insupportable, dans la vision de Christ qui portait le péché du monde. Alors, devenu péché pour nous, il a pris la maladie sur lui. Il s'est rendu volontairement malade de tous les maux de la terre. Et que fait-il alors à ce moment-là, Dieu ? Il répond au mal en l'absorbant mieux, en prenant la forme d'une de ses victimes. Christ a été fait victime pour nous, pour l'humanité. C'est ce que Dieu a fait. Et à ce moment-là, Christ, en tant que victime expiatoire, va souffrir. Il va mourir à cause du péché, mais lorsqu'il ressuscite glorieusement, alors à ce moment-là, nous l'avons chanté tout à l'heure dans ce cantique, « À toi la gloire, à toi la victoire », alors à ce moment-là, Christ ressortira vainqueur, non pas pour lui-même, mais pour chacun d'entre nous. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Christ a pris notre place, il a souffert, il a expié notre péché, il l'a absorbé, il l'a porté sur lui-même, il est mort à cause de notre péché, il est ressuscité, et quand la pierre a été roulée, à ce moment-là, il peut proclamer à la face du monde, et ça fait 2000 ans qu'on en parle, il est vainqueur. Vainqueur du mal, du péché et de la mort. Et il va l'offrir au monde par l'évangile. Allez par tout le monde et portez la bonne nouvelle à toute la création. C'est extraordinaire une chose pareille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je me réjouis de pénétrer dans la compréhension, autant que je puisse le faire, la compréhension merveilleuse de la Bible avec une lecture qui soit non seulement une lecture littérale, textuelle, mais une lecture qui m'ouvre d'autres horizons parce que finalement, ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie, mes frères et sœurs. La théologie, c'est bien, mais c'est très empoussiéré. Moi, je veux vivre de cette vie que Dieu m'a donnée. Alors, il l'offre au monde par l'Évangile. Et le précieux anticorps capable de neutraliser les effets dévastateurs du mal a été à jamais vaincu. Et les anticorps, nous les avons aujourd'hui. Ils sont là, ils sont pour nous. Ils sont à notre disposition. Sauf respect, et vous voulez bien me le consentir, sauf respect, je dirais que Jésus va être le vaccin de l'humanité entière. Et il y a cette citation du livre des Hébreux qui s'impose, quand je dis que Jésus est le vaccin, écoutez bien. Écoutez cette parole. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, il a été exposé, il a été confronté, comme nous, en toute chose, mais sans commettre le péché, à la différence. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis infirme. Seigneur, j'ai des problèmes au niveau de mon âme. J'ai des problèmes et des tentations au niveau du péché, de ceci et cela. Ça fait partie de ma nature. Alors, qu'est-ce qu'il m'est dit ? Pas de fuir, mais dit, approchez-vous. La solution, mes frères et sœurs, si vous la comprenez bien, elle est en Jésus-Christ. Lui, il vous a ouvert la voie. Maintenant, il y a une condition absolue, sine qua non à tout cela, pour son efficacité. Un sérum ou un vaccin qui reste dans son ampoule ne sert à rien. Je peux être malade d'une maladie très grave. Je vais chez le pharmacien, prescrit par le médecin. Il me donne une petite ampoule. Vous allez vous faire vacciner. Je la garde dans mon frigidaire. Imaginez-vous ce que ça va faire. J'ai l'ampoule ? Eh ben, je suis immunisé, tiens. Non, il faut qu'elle soit introduite dans votre corps. Parce que si ça reste comme ça, ça ne servira à rien. La condition du salut se résume ainsi, c'est de croire. Et croire, c'est tout simplement de recevoir. De recevoir, ça s'appelle la foi. L'anticorps indispensable aux vertus multiples de guérison, de pardon, de délivrance, de libération, d'affranchissement, eh bien, ne passe que par la foi. C'est parce que je crois que quelqu'un a fait à ma place et que maintenant, eh bien, il m'a donné tous ces anticorps dont j'ai besoin pour me défendre. Je vous rappellerai très brièvement, c'est qu'il y a eu déjà un prototype dans l'Ancien Testament qui avait été mis au point. Et qui est en rapport avec le salut à Golgotha. Est-ce que vous vous souvenez que Dieu avait déjà essayé jadis ce système, ce processus, au résultat étonnant? C'était le serpent d'airain. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Révolte ? Rébellion ? Où il y avait des murmures, où il y avait de la mauvaise langue, on voulait couper la tête à Aaron et puis à Moïse. Et puis, on était prêt à se révolter parce qu'il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas cela, on ne mangeait pas, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Mais ils avaient tout ce qu'il fallait s'ils avaient eu la foi. Enfin, ils ont eu la foi parce que Dieu leur a fait grâce, parce qu'ils ne sont pas morts du jour au lendemain. Mais toujours est-il qu'ils s'étaient tellement bien révoltés et ils n'avaient vraiment pas voulu prendre la potion. Alors qu'à un moment donné, il nous est dit que les serpents qui étaient dans l'invisible du sable sont sortis, ont mordu le peuple d'Israël. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, il y a eu un grand nombre qui est mort. Il me semble que ça doit être dans Nombre chapitre 22. Vous pourrez le retrouver. Et là, il y en a un qui s'est mis, c'était celui qui était accusé à tort, c'était Moïse. Il a dit, mais Seigneur, tu ne peux pas détruire ton peuple. Et Dieu lui a dit, bon d'accord, maintenant tu vas te faire un serpent, tu vas le monter, un serpent d'airain. Tu vas le monter sur une perche et quiconque regardera sera sauvé, guérira et sera délivré de la morsure. Et ça, c'était l'image d'anticipation du péché. C'était simplement un regard de foi. Il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que de regarder et de croire, tout simplement. Je dirais que préventivement et schématiquement, quelle méthode Dieu a-t-il mise au point qui affirme la justesse de la comparaison? Eh bien, c'est dans Apocalypse chapitre 12, quand il est dit ceci, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ a vaincu le mal, a vaincu le péché, a vaincu surtout le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si vous me permettez, il s'agit d'une transmission de la vie de personne à personne. Parce que c'est ça Jésus, hein ? Il a transmis de sa personne à ma personne la vie, par la foi. De quelqu'un qui a surmonté le mal à quelqu'un de malade et de qui est de moribond et qui finalement va retrouver la vie. On pourrait dire que finalement notre guérison est passée de sang à sang, de sang du sang de Jésus à mon sang. Et le sang est dans la vie. La vie, c'est le sang. Alors, on ne va pas parler de transfusion sanguine, hein, mais c'est une transfusion spirituelle en tous les cas. L'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette descente de l'Esprit sur nos vies, si ce n'est pas cela? La vie de Christ, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est cela. Je vais vous donner un exemple pratique avant de terminer. Je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est la variole. Et c'est une maladie qui a détruit des millions et des millions de gens. Hein. Je crois que dans les années 75, on a dit maintenant elle est éradiquée. C'est plus la peine de vacciner. Dans les années 75, hein, il me semble. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bizarre, hein, mais il y a des petits problèmes. Et il y a toute une génération qui n'a pas été vaccinée. Et si véritablement il y a une pandémie, eh bien, les gens ne pourront pas se défendre, comme pendant des siècles et des siècles, on ne se défendait pas contre la variole. Alors écoutez bien, parce que c'est intéressant, les mots ont un sens. La variole a été vaincue parce qu'un jour, les médecins ont découvert que les individus qui avaient été exposés au virus variolique de cette maladie, eh bien, avaient développé des anticorps et que quand la maladie a été au paroxysme, eux, ils ont été sauvés. Ils ne sont pas morts. Et quand on parle de variole, on parle de variole des vaches, qui a donné, en espagnol, parce que c'est les Espagnols qui ont trouvé la solution, on a donné le nom, puisqu'on avait trouvé le processus sur des vaches, on a donné le mot vaccin, qui vient du mot espagnol vaca. C'est extraordinaire ça. Hein. Et on a à ce moment-là fait quelque chose qui a permis de protéger l'humanité par ce vaccin. Les gens ont été immunisés. Et on pourrait parler des varioleux rescapés avaient vaincu la maladie en développant dans leur organisme des anticorps parce qu'ils avaient été confrontés avec la maladie, mais pas à grande échelle, simplement à petite dose. C'était une forme de vaccination naturelle. Et à un moment donné, quand il y a eu l'épidémie à grande échelle, on s'est aperçu que finalement ceux qui avaient été déjà confrontés un petit peu avec la maladie, eh bien ne mouraient pas eux, parce qu'ils avaient produit des anticorps. L'idée était géniale. Je dis que c'est génial. La route de la guérison et de la protection était ouverte, et c'est dans le sang des patients qui avaient été confrontés avec le virus de la variole que s'était développé, en quelque sorte, eh bien là, des précieuses défenses. Aujourd'hui, on le fait en laboratoire avec des cobayes, des animaux, de sang à sang. Oui, on prélève, on met de la maladie dans le sang des cobayes, et ensuite on prélève les antitoxines, la défense. Le sang du donneur devenait alors le sang du vainqueur. Et quand nous voyons que Jésus a été le donneur, mais il a été le donneur de son sang pour que nous soyons vainqueurs, parce que lui est vainqueur. Racheter, nous dit Pierre. Oh, les textes sont magnifiques. Hein. Écoutez bien. Racheter par le sang précieux de Christ à celui qui nous a délivrés par son sang. On l'a chanté tout à l'heure. Vous savez pas, Patrick, hein? Mais c'est ça. Hein? Ouais. À celui qui nous a délivrés par son sang. La foi, la remise de mes péchés, c'est-à-dire la repentance. Et la repentance, frères et sœurs, a un sens. Ce n'est pas du bricolage. Ce n'est pas des approximations. La repentance a un sens particulier. La repentance, elle est bien expliquée dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 10. On ne peut pas dire « je me suis repenti » parce que la repentance, elle est marquée par des fruits. Elle est marquée par une vie nouvelle. Elle est marquée par un changement d'attitude, de parole, de propos et de tout ce que vous voudrez, d'attitude et de comportement. Alors, la repentance est quelque chose d'important. Et la repentance, c'est l'aveu de ma maladie. Je dis « je suis malade du péché ». Je suis malade de mon péché particulier. Je suis malade parce que finalement le mal m'a amené à telle ou telle situation. Mais si je dis que je suis malade et que je continue à faire le mal, c'est que je ne me suis pas repenti. Donc je n'ai pas fait l'aveu de ma maladie. La conversion à Jésus-Christ, sa vie dans ma vie, son esprit dans le mien, ne me laisse aucun doute sur les résultats et l'efficacité du sang de Jésus. C'est pour ça qu'il y a chez l'homme... Le chrétien, un avant et un après. Il y a une grande différence. L'apôtre Paul dira, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu ? Vous avez été racheté à un grand prix ? Je suis donc vainqueur parce que le mal... a été terrassé, non à cause de ma résistance, de ma propre force, mais parce que la bataille a déjà été livrée dans le cœur, dans le corps de quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus et qui en a triomphé à ma place. Et c'est par la foi que je reçois la délivrance et le pardon. Je conclue maintenant. La valeur, la durée, et le renouvellement de la vaccination contre le péché. C'est pour ça qu'on appelle des piqûres de rappel. Pour rappeler, une première, qui crée des antitoxiques, une deuxième, enfin je sais, ça se fait peut-être plus comme ça, hein. Mais nous on se souvient, hein, c'était quelque chose. Hein. On était enfants, j'avais 9 ans, et il fallait à la mairie, parce que c'était comme ça, et on était tous les uns derrière les autres, en bras de chemise, comme ça, et c'était l'angoisse, hein, la piqûre, poum. Bon, c'était pas... Non. Vous en souvenez pour les... Ouais, c'était après la guerre, ça. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On était verts. Enfin, parce qu'il y avait l'attente. Il y avait toutes les écoles de la commune qui étaient là, parce que le médecin, il venait pas... Hein, il venait de Tours à l'époque, et il venait avec ses charges, là, de... Alors, on passait les uns par les autres, il y avait peut-être 200 enfants, alors on était là et on attendait et on était à faire le pied de grue, mais c'était l'angoisse, hein. Oh, c'était terrible. Enfin, on a quand même été rescapés, on est là encore aujourd'hui. Donc, la valeur, la durée, le renouvellement. Et vous savez ce qu'on va faire tout à l'heure ? On va prendre la Sainte Seine. Eh bien, c'est ça la piqûre de rappel. Je ne vous choque pas avec mes propos ? J'espère, hein. Parce que je parle franchement, je parle simplement. Parce que c'est quand même ça derrière. Alors la Sainte Seine a pour nous le sens d'un rappel. Rappel de vaccination. Vous annoncerez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et vous vous souviendrez que ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Ceci est mon sang qui a été versé pour votre salut. Pour votre délivrance. Et je peux me dire, en me souvenant de ces paroles que je restitue encore une fois, et peut-être dans une version française plus moderne, ceci est mon sang, qui a été fortifié, qui a été préparé pour vous. Ceci est ma vie, qui a été vécue pour vous, et à laquelle vous pouvez avoir part. J'ai connu, pourrait nous dire Jésus, puisqu'il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché, il peut nous rappeler ce matin autour du repas de Sainte-Seine, « J'ai vaincu la fatigue, j'ai vaincu le découragement, j'ai été tenté d'abandonner, mais ne l'oubliez jamais, mes amis, nous dit Jésus, mes frères et mes sœurs, qu'aujourd'hui, demain, vous aussi vous pouvez connaître tout ce que j'ai connu et vécu. Quand cela vous arrivera, sachez que vous pouvez utiliser et courir à ma force, compter sur ma puissance, recevoir mon esprit, car pour vous, par mon sang, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Le mal, la mort, le péché, lui qui, par ses meurtrissures, eh bien, dans lequel nous sommes non seulement vainqueurs, mais nous avons été guéris. Et mes frères et sœurs, vous qui attendez une délivrance, vous êtes guéris ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous aide. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu n'as pas dissocié le ciel et la terre. Tu n'as pas dissocié la nature que tu as créée avec la rédemption pour sauver cette nature. Nous te remercions et nous te bénissons parce que les hommes n'ont rien inventé. Tout était déjà inventé à l'avance. Nous te bénissons parce que déjà le premier jour du péché, dans le jardin d'Éden, tu avais déjà trouvé la solution. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'explication de la rédemption. Nous te remercions et nous te bénissons pour la solution que tu as donnée en Jésus-Christ. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs et que tu leur donnes de l'autodéfense. Que tu leur donnes, Père éternel, des anticorps. Que tu nous donnes aux uns et aux autres, Seigneur, de pouvoir, en effet, Seigneur, être là, doté d'antivirus. Et le virus le plus terrible, c'est le péché. C'est notre péché, c'est pas celui des autres. C'est à commencer par le nôtre. Et nous te bénissons. Merci, Jésus, pour la mort à la croix. Merci pour ta rédemption. Merci parce que tu lèves le coin du voile et tu nous fais comprendre, Seigneur, qu'en effet, Père éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et comment pourrions-nous nous défendre du mal, du péché, et de la mort, de celui qui est le prince de la mort? Comment nous pourrions nous défendre? Mais tu as été fait, en effet, Seigneur, péché pour nous, pour que, en croyant en toi, nous ayons la victoire pleine et totale. Tu bénis ton peuple, tu bénis ton Église. Tu nous conduis sur de nouveaux chemins, Seigneur. Tu nous renouvelles, Seigneur, dans notre esprit, dans notre entendement, dans notre cœur, dans notre vie complète et totale. Merci, mon Dieu. Bénis ton peuple, afin qu'il progresse, afin que nous puissions aller de plus en plus, Seigneur, vers l'avant. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.